Chapitre 70. Nous essayons de nous orienter parmi les étroites galeries voûtées. Nous n'avons pas pensé à consulter les panneaux d'information recouverts de neige. Trop pressés, nous nous sommes directement précipités vers l'entrée des grottes de Jonas, avons escaladé les premiers escaliers, alors que mes cris grimpaient les marches plus vite que nous.
Gabriel !
La plupart des tunnels qui relient deux salles ne sont pas hauts de plus d'1,40 m. Nous y progressons pliés en deux, presque en aveugle, avant de retrouver la clarté à chaque nouvelle pièce, le plus souvent haute et spacieuse. Savine m'a rapidement briefé sur ces grottes, dont je n'avais que vaguement entendu parler. 70 pièces, 5 étages, un véritable gruyère dans la falaise de tuf qui, depuis plusieurs millénaires, a servi soit de refuge, soit de prison.
Gabriel !
Nous pénétrons dans la chapelle sans un regard pour les fresques murales. Nous traversons le logis du maître sans nous attarder sous la plus haute salle voûtée. Nous explorons le fournil, le grenier, le pigeonnier, sans découvrir aucune trace de vie. Gabriel est pourtant là, quelque part, mais la localisation du traceur kit contrôle n'est pas assez précise pour indiquer l'étage, le nom de la pièce et le parcours pour l'atteindre sans se perdre dans le labyrinthe.
Gabriel ! Gabriel !
Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer dans ce dédale ? Pourquoi ? Comment est-il venu ici ? Une fugue ? Pourquoi pas, après tout ? Après tout ce dont Savine vient de me faire prendre conscience. Je dois chasser en moi l'image d'Esteban, ou de Tom, noyé dans le pavin. Je dois repousser ces histoires de réincarnation. Je dois m'éloigner de ce lac noir qui engloutit mes souvenirs. Je dois avancer, concentrer, et ne penser qu'à mon fils. Une nouvelle pièce. Je ressens une étrange sensation de chaleur. Savine se précipite et repère, dans la large cheminée, des cendres encore chaudes. Quelqu'un y a fait brûler des fagots, il y a moins d'une heure. Nous jetons un regard panoramique sur les murs roses taillés dans la lave, sur les pierres au-dessus de l'âtre, noircies de fumée. « On est sûrement dans le four », précise Savine. « Quelqu'un se cachait ici. » La pièce est éclairée par une minuscule lucarne. Pour l'atteindre, je m'avance et me hisse sur la pointe des pieds.
« Gabriel !»
Mon cri se perd dans le décor glaciaire dont je ne vois que le ciel et la ligne de crête. Je m'apprête à chercher un meilleur poste d'observation, poser mes talons, marcher à reculons, quand j'entends une voix. Une voix lointaine, fluette, un minuscule filet, mais elle a eu le temps de couler dans mes oreilles et ma mémoire auditive l'a enregistrée. Elle ne peut pas se tromper. Vais-je à nouveau basculer dans la folie ? Ce n'est pas la voix de Gabriel, c'est celle de Tom. Non. Tom est mort. Esteban est mort. Je ne dois plus penser à eux. Je dois repousser les fantômes. Je ne dois plus penser qu'à Gabriel. Gabriel, vivant. Savine s'est-elle aussi approchée de la lucarne ? A-t-elle entendu ? Mes mains s'agrippent au rebord de la lucarne. Je me suspends le plus haut possible et je crie à m'en exploser les poumons.
Gabriel !
J'ai l'impression que ma voix s'accroche à chaque fissure de la falaise avant de cesser de lutter et de dégringoler.
Ici !
Les rebords coupants de la lucarne cisaillent mes doigts, mais je ne les sens pas. Mon cœur bondit, mon visage s'irradie. Je n'ai plus aucun doute cette fois. C'est la voix de Tom, vivant ! Les spinasses, Nectaire, Louchadière et tous les autres flics m'ont donc menti ? Pourquoi ? À quel jeu atroce participe-t-il ? Dans quel complot monstrueux trempe-t-il ? Savine se tient derrière moi. Elle aussi a entendu la voix, aussi stupéfaite que moi. Je crie à nouveau. Sans réfléchir cette fois.
Esteban !
Les yeux de Savine me fusillent. Esteban ? N'ai-je rien retenu de ce qu'elle a essayé de me faire comprendre ? Je dois oublier ce fantôme. Penser à Gabriel, à Tom à la rigueur. Je détourne le regard. Je suis désolée, Savine, mais c'est toi qui n'as rien compris. Si Tom est vivant, Esteban l'est aussi.
Esteban !
Aucune réponse. Évidemment, je suis stupide. Tom ignore tout de son identité d'avant, de son prénom précédent.
Tom !
Il me répond immédiatement cette fois.
Là ! Je suis là !
L'absolue détresse dans sa voix me bouleverse. Jamais je n'ai entendu un appel au secours aussi déchirant. Rassure-toi, Esteban, cette fois je suis arrivée à temps. Le cri est venu de ma droite, j'en suis certaine. Il est sans doute coincé dans l'une des pièces un peu plus loin. Sans réfléchir davantage, comme si Savine n'existait pas, je m'enfonce dans le premier tunnel face à moi. Il est encore plus bas que les précédents. Mon pansement frôle les parois. Je manque de me fendre le crâne à chaque mètre. Mon pull s'accroche au mur de granit. J'abandonne des touffes de laine derrière moi.
Tiens bon, j'arrive !
Cul-de-sac. Je maudis ma malchance. J'ai choisi la mauvaise galerie. Celle-ci débouche directement sur une ouverture qui tombe à pic sur la falaise. Tant pis. Je n'ai qu'à rebrousser chemin et prendre un autre couloir. Je vais crier pour m'orienter. Je vais écouter. Je vais forcément trouver. Je prends juste une seconde avant de m'enfoncer à nouveau dans le tunnel pour essayer de me repérer au trou qui perce la falaise. J'en distingue une trentaine, des plus hauts, 10 mètres au-dessus de moi, au plus bas, presque ensevelis sous la neige, à proximité du parking désert où le Coléo s'est garé. C'est le seul signe de vie dans ce paysage désertique, à l'exception des traces de pneus qui s'étirent derrière le 4x4, tels deux longs rails d'un train fantôme. Je les suis un instant des yeux, distraitement, avant de les perdre, puis de les retrouver comme si je m'étais trompée d'aiguillage. C'est impossible, je le sais. Il ne peut y avoir que deux rails. Je me concentre. Je fixe l'immense parking immaculé et je vois distinctement ce que, dans un premier temps, je n'avais pas remarqué. Les traces de pneus du Coléos de Savine en croisent d'autres. L'évidence me serre la gorge. Une voiture est venue ici, il y a quelques heures, puisque ces marques n'ont pas encore été totalement effacées. Une voiture dont les traces de pneus sont si faciles à identifier. Tout bascule dans ma tête. Je sais désormais qui est le monstre. Qui a enlevé Esteban? Qui a enlevé Tom? Qui a décidé de me rendre folle depuis toutes ces années? Je dois fuir. Je dois courir. Je dois crier avant. Je dois le prévenir. Je dois les prévenir. Je ne sais plus qui appeler, que crier, quel prénom. Tom? Esteban? Gabriel? Je dois choisir. Vite, décider qui en premier avant que... Je l'entends. La voix s'engouffre dans le couloir. Une traînée de poudre. Un feu ardent. Un seul mot, mais si brûlant.
Maman!
Je me retourne pour lui tendre les bras. La pierre, frappée avec une fureur décuplée, m'écrase la tempe et la moitié de l'œil droit.